France Inter. Le 7-9. Intervenez.
Interactif jusqu'à 9h avec Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, spécialiste en neurosciences cognitives et président du tout nouveau Conseil scientifique de l'éducation. C'est Bernard qui nous appelle au standard. Bonjour Bernard.
Bonjour. Bonjour toute l'équipe de France Inter et merci.
On vous écoute Bernard, vous êtes en direct.
Alors, je voulais poser une question à Monsieur Dehaene. Les recherches en neurosciences et différents rapports, Assemblée nationale, Sénat, Académie de médecine, la position de Monsieur Blanquer dans le rapport de l'Assemblée nationale, soulignent tous l'exception française, aberrante pour les apprentissages, qu'est la semaine de 4 jours. Vous-même, Monsieur Dehaene, dans une conférence au Collège de France, vous dites sous forme d'une boutade, école de 4 jours, 4,5 jours, ça devrait être l'école de 7 jours. Le ministère a laissé le choix des rythmes. On assiste à un retour massif vers la semaine à 4 jours pour des raisons d'adultes et non dans l'intérêt de l'apprentissage des enfants. Et donc ma question, c'est quel message, quelle action comptez-vous mettre en place pour que les apports des neurosciences soient pris en compte dans cette question des rythmes scolaires ?
Oui, c'est une vraiment bonne question. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Effectivement, le cerveau apprend tous les jours et d'ailleurs toutes les nuits aussi. Les données sont extrêmement claires. Donc vous accumulez du savoir dans la journée, mais vous le consolidez pendant la nuit. Et ceci, tous les jours. Donc tout à l'heure, on posait la question du rôle des parents. Les parents sont vraiment l'un des piliers de l'apprentissage. Et nous allons faire un travail spécifique pour que les parents soient mieux informés des apprentissages.
Mais si j'en reviens à la question de Bernard, on fait pas ce qu'il faut. D'un point de vue de vos sciences, il faudrait garder la semaine de 4 jours et demi.
Bon, je suis sûr qu'il y a des problèmes d'organisation aussi du système scolaire et il est important que les enfants ne soient pas juste présents pendant 4 jours et demi, mais que ce qui leur est proposé pendant cette période soit de haute qualité.
Donc, mais vous avez dit à Jean-Michel Blanquer qu'il faisait erreur ou pas ?
On en a discuté, effectivement, mais je ne suis pas sûr qu'il y a erreur, parce que je vous dis, il y a des facteurs d'organisation qui sont sans doute tout aussi importants que les facteurs cognitifs.
Mais organisation là où des enseignants et des parents, pas des élèves, vous voulez dire ?
De l'école, tout simplement, oui. Parce que je crois
mais
que certaines municipalités avaient des difficultés.
Mais si on mettait en avant l'intérêt supérieur des enfants, il faudrait la semaine de 4 jours et demi ?
Dans les familles, la raison pour laquelle il y a des grandes inégalités, c'est que certaines familles, le week-end, tous les jours, font, de manière assez informelle, faire des sortes d'exercices à leurs enfants. Et il n'y a pas de discontinuité dans le cerveau entre travailler et jouer. Jouer, c'est apprendre. Il faut que les parents comprennent ça aussi. Donc ça veut dire, par exemple, il a été très très bien montré qu'un précurseur des mathématiques et de la compréhension du sens du nombre, ce sont les jeux de plateau. Lorsque vous jouez aux petits chevaux, au jeu de loi, eh bien, ou à la bonne paix, vous êtes en train d'apprendre à votre enfant des choses utiles dans le domaine des nombres. Donc nous pensons que le rôle des parents est très important.
Tous les jeux sont bons dans l'apprentissage.
Ah oui, vraiment, il y a beaucoup de jeux qui sont bons. On a des préjugés contre les jeux vidéo, par exemple. C'est vrai qu'il y a un côté addictif, mais sur le plan de l'apprentissage cérébral, il y a un certain nombre d'études qui montrent que les jeux vidéo développent l'attention des enfants et la capacité de se concentrer.
Aller tuer des gremlins pendant 2 heures, c'est bon pour l'apprentissage.
Peut-être qu'on peut limiter ça à une demi-heure par jour.
Qu'est-ce que vous pensez des téléphones portables ? On a entendu Bill Gates récemment qui disait qu'il avait interdit à ses enfants le portable avant 14 ans. Le gouvernement envisage d'interdire les smartphones à l'école et au collège. Quel est l'effet de l'addiction au portable sur le cerveau des enfants et quels conseils vous donnez aux parents sur le rapport au portable ?
Tout dépend de l'usage. Il n'y a pas de réponse du style le numérique c'est bon, la robotique c'est bon en éducation. C'est pas comme ça. Ça dépend totalement des logiciels qui sont utilisés par les enfants. Et il y a d'excellents logiciels pédagogiques. Je suis très heureux d'ailleurs d'avoir appris hier soir que le logiciel Graphogame qui a vraiment eu un impact majeur en Finlande sur l'apprentissage de la lecture va être disponible maintenant en français. L'équipe de Joe Ziegler à Marseille va le rendre disponible.
Mais quand vous voyez ces enfants qui sont absorbés par les écrans, quand vous les voyez au restaurant, chacun devant son portable, est-ce que vous dites que c'est inquiétant pour le cerveau ?
Oui, ça me préoccupe absolument parce qu'il y a ce problème d'addiction et puis parce qu'il y a ce problème d'adhérence au réel. On en parle beaucoup pour les mathématiques et je crois qu'il faudrait faire des expérimentations. Est-ce qu'il ne faut pas que les petits-enfants aient une interaction avec des objets réels comme des cubes, des jeux de construction, des puzzles, des pliages ?
Plutôt que les écrans.
Parce que ça mène aux mathématiques. Le continuum existe entre le sens de la physique et le sens des mathématiques.
Et est-ce qu'il faut laisser le cerveau s'ennuyer, se reposer ?
Ah, c'est une question intéressante. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de données là-dessus. Mais effectivement, c'est important que l'enfant développe son imaginaire et soit capable de développer non seulement un traitement des données qu'on appelle bottom-up, mais aussi un travail qu'on appelle top-down, c'est-à-dire des modèles mentaux dans lesquels on génère soi-même ses propres images mentales, qu'on peut faire bien sûr dans le noir, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de recherche là-dessus, c'est sans doute un point important.
Les devoirs le soir à la maison, c'est une bonne ou une mauvaise idée ?
Moi, je trouve que c'était pas mal d'avoir des devoirs. Alors, la réponse, c'était que c'est générateur d'inégalités, parce qu'il y a certaines familles où ça n'est pas possible. Donc, l'action qui est devoir fait, certainement une assez bonne action. Alors. Mais il faudrait qu'on trouve aussi des relais dans les familles, avec des choses qui ne sont pas forcément des devoirs, mais tout simplement des activités. Le simple fait de savoir, par exemple, que dans les petites classes et chez les petits-enfants, même en maternelle, il faut parler à ses enfants. On peut avoir un dialogue de qualité, y compris sur des sujets difficiles avec ses enfants. Il y a beaucoup de familles qui ne font pas ça.
Bonjour François.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes en direct.
Voilà, bonjour Monsieur Dehaene. Je voulais vous... Alors déjà une première remarque, j'espère que vous ferez preuve d'autant de mesure quand vous serez en accord avec Monsieur Blanquer que quand vous êtes en désaccord.
maintenant, dites ça pour les rythmes scolaires.
Pour les rythmes scolaires, oui. Les portables. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vous et les neurosciences, vous servez à habiller en fait un grand retour en arrière, un retour vers le ministère de l'Instruction nationale, qui était le ministère il y a un siècle, et que finalement, vous servez à considérer que le cerveau des élèves, c'est juste comme un micro-ordinateur et regarder l'activité, et vous oubliez la dimension qui est extrêmement importante, qui est la dimension citoyenne et d'interrogation sur les choses et finalement de réflexion sur ce qui est mis. Et quand on voit la composition de votre conseil scientifique, vous avec la présidence, la part prépondérante des neurosciences, d'économistes et d'informaticiens, quand on met ça bout à bout, je crains qu'on soit plutôt dans un objectif de chercher à créer des élèves qui soient très bon dans l'application, qui soit finalement très bon pour le marché de l'emploi, mais dont on oublie que l'objectif principal, c'est de créer des citoyens, et donc on a besoin de savoir, de maîtriser les savoirs, bien sûr, mais aussi d'un aspect réflexif et de s'interroger sur ces savoirs-là et sur le monde.
Merci François Stanislas Dehaene.
Pour moi, c'est une fausse opposition, mais vos propos me font réfléchir, évidemment. Mais un citoyen qui n'est pas capable de lire le journal et donc de s'informer sur ses options de vote, ça n'est pas un bon citoyen. Donc il me semble que l'insistance sur les bases, être capable de comprendre un graphe mathématique également et de comprendre un peu d'économie, c'est vraiment très important dans le monde d'aujourd'hui. Pas seulement pour l'emploi, mais pour être un bon citoyen. Par ailleurs...
Mais vous entendez la critique oui, qui sous-tend tout ça, c'est que vous vous intéressez trop au cerveau et pas assez au milieu social ou à l'origine culturelle de l'enfant.
Non, mais c'est à nouveau un faux procès. Nous allons avoir un sous-groupe de travail qui va travailler sur un sujet qui est très important, c'est la confiance en soi et le rôle de la perte de confiance en soi dans les inégalités. Oui. C'est un vrai sujet, ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire je crois que je ne vais pas savoir ou au contraire, je sais que je peux y arriver. Oui. Et ça joue un rôle absolument déterminant. Un certain nombre d'enfants qui arrivent à l'école, notamment en mathématiques et notamment les filles, en disant tout ça, c'est pas pour moi, je ne suis pas bon. Et cette attitude-là, elle se traduit par une sorte de prophétie qui se réalise elle-même, hein, je ne vais pas y arriver. Alors que si vous avez l'attitude qui est de dire, je sais que mon cerveau est plastique, je sais que tous les jours j'apprends un peu, je vais progresser, je progresse, eh bien, vous allez voir que les progrès sont plus réels.
Un mot avant de retourner au standard de France Inter. Que disent vos travaux sur le besoin ou non d'un retour à l'autorité à l'école? Est-ce qu'on apprend mieux quand le maître ou la maîtresse est très ferme?
Non, là, il y a deux choses très différentes. La première, c'est qu'on sait que le stress joue un rôle très négatif sur les apprentissages. Le stress bloque les apprentissages. Donc, s'il s'agit d'autorité au sens d'imposer une chape de plomb sur l'école, ça n'est pas du tout ça. Au contraire, il faut un épanouissement et sans doute une individualisation et un rôle du jeu très important à l'école. Par contre, bien sûr, il faut qu'il y ait quand même un certain ordre qui règne dans la classe lorsque, exactement pour la même raison d'ailleurs, si un enfant arrive en classe en sachant qu'il va se faire attaquer ou qu'il va être le souffre-douleur...
Bien sûr. Ouais.
Ça n'est pas possible.
Nathalie est au standard de France Inter. Bonjour Nathalie, bienvenue.
Oui, bonjour, merci pour vos émissions. Alors moi j'appelle pour un cas un peu particulier. J'ai un fils qui a un trouble du déficit attentionnel, un TDAH. Oui. Et je pense au contraire de beaucoup de parents que j'entends que les neurosciences pourraient être très utiles aussi pour aider les enseignants à s'adapter à ces enfants-là. Et je voudrais savoir si ça fait partie aussi des pistes de réflexion et des enfants sur lesquels on réfléchit pour mettre en place ces nouvelles pratiques dans l'éducation.
Oui, alors il y aura un sous-groupe de travail au sein du conseil.
Il y a des sous-groupes surtout en fait. Hein.
Non, il y a 5 sous-groupes. Et l'un d'entre eux sera spécifiquement sur les enfants avec handicap. Et comment les aider, comment préparer des manuels, des examens aussi qui soient adaptés à ces enfants. Sachant que pour ce qui est des troubles de l'attention, par exemple, il y a en fait différents troubles d'attention. Des enfants qui ont vraiment des problèmes avec les circuits cérébraux de l'attention. Et puis il y a d'autres enfants qui ont tout simplement des problèmes de sommeil, qui peuvent être d'origine médicale ou d'origine sociétale, des enfants qu'on n'emmène pas se coucher suffisamment tôt. Donc on peut faire ce genre de distinction, et j'en profite pour dire qu'un autre sous-groupe en liaison avec celui-là...
on les aura tous fait comme ça.
On les aura tous fait, travaillera sur ce qu'on peut dire aux enseignants et aux parents, donc la formation des enseignants. Parce que vous voyez, il faut que les enseignants aient un bagage d'informations sur ce que c'est que l'apprentissage, sur comment le cerveau fonctionne dans les apprentissages, et donc nous allons travailler...
Ils l'ont pas ?
Bah, ils n'en ont pas beaucoup, hein, honnêtement. Non, on est encore
les
beaucoup.
Enseignants ne savent pas parler, ne savent pas trouver les mots pour apprendre aux enfants ?
Non, c'est pas ça du tout. Ils ne sont pas informés dans sciences cognitives. Et là, je pense vraiment qu'il y a un bagage minimal de sciences que tous les enseignants devraient avoir, parce que ça a vraiment à voir avec leur métier. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant va mémoriser une information mieux ? Et donc, on va essayer de créer un cours en ligne qui permettra aux enseignants de se former. Il y a déjà beaucoup de conférences. On en organise une, d'ailleurs, le 1er février au Collège de France, toute l'après-midi, sur la question de l'expérimentation.
Ce sera sur la base du volontariat, cet enseignement, cette formation des enseignants.
Très probablement, bien sûr.
On ne va pas obliger les enseignants dans leur parcours.
C'est une vraie réflexion, mais ce n'est pas évidemment à moi de le dire. Mais c'est vrai qu'on va regarder dans des comparaisons internationales la situation de la France. Et il est vrai que la formation continue des enseignants en France est très limitée.
Est-ce que vous avez le sentiment que les enfants d'aujourd'hui ont plus de mal à se concentrer qu'il y a 5 ans, 10 ans ou 30 ans ?
Je ne pense pas qu'on ait ce genre de données en réalité ils sont capables de se concentrer dans certaines situations et pas dans d'autres. Donc non, je ne pense pas qu'on puisse généraliser de cette manière-là.
C'était pas mieux avant ?
Ah non, alors vraiment là, vous savez, ce qui a beaucoup changé si on regarde à l'échelle de 50 ou 100 ans, c'est qu'on essaye maintenant d'avoir l'ensemble de la population qui atteigne le plus haut niveau. Mmh. Donc c'est vraiment une chose assez difficile.
L'école finalement qui dégringole, tout fout le camp, c'est...
Bah, il y a quand même 15 ans de baisse des performances dans les enquêtes internationales. Donc qui sont quand même
c'était mieux avant.
Préoccupants. Mais on ne sait pas très bien pourquoi. Ça ne veut pas dire que l'école était mieux avant, par exemple. C'est peut-être des facteurs environnementaux, c'est peut-être des facteurs familiaux. C'est peut-être effectivement cet isolement face aux tablettes, on ne sait pas très bien. Et je pense que ce sera notre rôle de conseil scientifique d'essayer d'identifier par des moyens expérimentaux quels sont les facteurs qui influent réellement sur la performance des élèves. Et ensuite, ce sera à l'éducation nationale de trouver la mise en œuvre correspondante.
Stanislas Dehaene, Jean nous appelle au standard d'Inter. Bonjour Jean, bienvenue, on vous écoute.
Oui, bonjour. Moi, je me questionne sur... moi, j'ai un fils de 15 ans et je vois qu'il y a des matières... Il est plutôt d'orientation artistique et je vois qu'il y a des matières où il cartonne et des matières où ça va pas du tout. Et ce que je vois, c'est que ses résultats sont proportionnels au plaisir d'apprendre. Et en fait, lorsqu'il se trouve avec un enseignant passionné par sa matière, ben, ça passe tout seul. Et quand l'enseignement est plutôt dogmatique du style... peut-être, si j'emploie une image un peu caricaturale du gavage d'oie, là, ça bloque total.
À peine caricatural.
Ça, c'est une question. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'expérience de Céline Alvarez à Gennevilliers, qui a pris toute une classe avec observation scientifique sur 2 ans, une classe multiculturelle qui était très en retard sur la moyenne, donc avec beaucoup de problèmes d'identité et de confiance en soi, et qui les a amenés à faire dépasser le niveau moyen des élèves de ces classes.
Et qui était venu nous en parler ici même sur France Inter il y a quelques mois. Stanislas Dehaene, d'abord le plaisir.
Alors le plaisir est un modulateur massif de l'apprentissage, donc effectivement vous avez raison, et la curiosité est en soi un facteur de plaisir. Le plaisir d'apprendre existe réellement, ça a été démontré par des expériences assez rigoureuses, de la même manière qu'on a un circuit dopaminergique qui peut décharger à la vue. Un circuit de la dopamine dans le cerveau, qui est un circuit de la récompense, du plaisir. Eh bien, il y a un plaisir à apprendre. Ce plaisir, il faut arriver à le maintenir chez les enfants, et c'est vrai qu'il a été aussi montré que le cours magistral, 40 minutes où les enfants restent assis à écouter, ça n'est pas la meilleure manière d'enseigner. Il faut arriver à faire intervenir les enfants, ce que j'appelle l'engagement actif. Il faut faire en sorte que le cerveau de l'enfant fasse des prédictions et compare ces prédictions avec la surprise qu'il peut avoir lorsqu'il apprend une information.
Sur la deuxième partie de la question, l'expérience menée par Céline Alvarez et d'autres, on pourrait parler des Montessori aussi.
Oui, c'est très important. Il y avait une belle expérience, même si elle n'était pas rigoureusement scientifique, puisqu'il s'agissait juste d'une classe, et avec une pédagogue, c'est vrai, exceptionnelle, Céline Alvarez. Il met en ligne d'ailleurs des vidéos qui sont extrêmement intéressantes sur la manière dont elle a pratiqué son enseignement. Je pense qu'il y a beaucoup à prendre pour les classes ici, et j'aimerais beaucoup personnellement qu'il y ait de nouvelles expérimentations dans ce domaine.
Léa ?
Qu'est-ce que le président du conseil scientifique que vous êtes pense du baccalauréat ? Est-ce que c'est dépassé ?
Je n'ai pas d'avis sur la question.
Il n'y a pas un sous-comité.
Non.
Est-ce qu'il y a des annonces bientôt ?
J'attends avec impatience de voir le rapport, effectivement, et on essaiera de se pencher sur cette question. Mais là, honnêtement, je suis pas sûr que la science ait grand-chose à dire là-dessus. On va voir quelles sont les conclusions. Je pense, en général, notre conseil scientifique s'intéressera surtout aux primaires, et ça correspond bien à cette notion d'une priorité aux primaires, parce que là, on a des données un peu plus pertinentes.
Il nous reste quelques instants seulement. Je voudrais qu'on dise un mot de l'apprentissage de la musique. Quel rôle dans la formation des futurs adultes?
C'est important. Il y a des études qui montrent qu'apprendre la musique modifie les fonctions exécutives, en particulier du cerveau, c'est-à-dire la capacité de se concentrer, la capacité de ne pas se laisser distraire par quelque chose. Mais pour un petit enfant, pratiquer la musique, c'est vraiment une activité totale. Arriver à contrôler tout son corps, arriver à contrôler sa lecture. Donc il y a énormément de facultés qui sont augmentées par la pratique musicale. Et effectivement, l'entrée des instruments de musique à l'école me paraît une très très bonne chose.